Je crois qu'on peut y aller, hein, il est 19h30.
Oui, d'accord.
Okay. Bon, peut-être je vais juste te présenter rapidement Lionel. Voilà, attends, ça, je pense que c'est bon. Donc, tout marche. Bon, ben, bonsoir à tous, il y en a encore qui arrivent. Mais on commence, on essaye d'être à l'heure. Merci à tous de m'aider à gérer la situation avant toute chose. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir pour cette présentation par Lionel Astesiano, qui est professeur de philosophie dans le secondaire à l'Université de Bourgogne et, comme vous le savez, qui consacre ses recherches à Spinoza et à Bergson, donc qui a publié relativement récemment ce livre « Joie et liberté chez Bergson et Spinoza ». Et comme vous le savez, ben, voilà, le but, c'est vraiment de faire le lien, au-delà de la présentation de Lionel, entre ce que peuvent nous apprendre Bergson et Spinoza pour voilà, tout ce phénomène des entreprises libérées. Et comme vous l'avez vu peut-être pour ceux qui ont lu les extraits que j'ai donnés dans la dernière communication, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus. Mais avant toute chose, on va écouter Lionel et voir après ensemble les liens qu'on peut tisser à partir de sa présentation pour ce qui nous intéresse en tout cas, c'est-à-dire tout ce mouvement des entreprises libérées. Voilà, bonne soirée à tous.
Bien, merci.
Je voudrais peut-être, juste avant encore, de le dire, il y a le livre, je n'ai malheureusement pas de copie à vendre ici suite à cela, mais vous le trouverez facilement. Il y a deux livres aussi après que vous verrez pendant la soirée que j'ai en vente, « Valeur et management », on pourra en parler. Le prix est affiché, donc si vous êtes intéressé, laissez simplement l'argent à côté. Et il y a aussi « Philosopher sur le changement dans la vie professionnelle ». Voilà, bon, on peut en parler tout à l'heure. Lionel, la parole est à toi.
Merci Laurent, donc merci pour ton invitation et merci d'être venu ce soir. Alors, je vais parler de la joie, principalement chez Spinoza, parce que c'est le grand philosophe de la joie. Après, on verra le lien avec des choses qui peuvent davantage vous intéresser, mais d'abord, on va essayer de voir ce que c'est que la joie, et je pense que le penseur par excellence pour nous faire comprendre ça, c'est Spinoza. Alors, Spinoza a une formule. Alors, je pense qu'il faut partir de l'éthique, son livre fondamental, et il faut partir du milieu de l'éthique. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Gilles Deleuze qui dit que c'est un philosophe qu'il faut prendre par le milieu, Spinoza, et le milieu de l'éthique, c'est-à-dire le livre 3, parle des sentiments, et donc en particulier du désir. Alors, pour Spinoza, il y a trois sentiments fondamentaux, le désir, la joie et la tristesse. Ça veut dire fondamentaux, ça veut dire que tous les autres en découlent. Tous les autres sont composés de cela. Donc, il n'y a pas de sentiment qui ne soit composé de désir, ou de joie, ou de tristesse. Tous les autres sentiments découlent de ces trois sentiments fondamentaux. Et donc, il n'y a pas d'expérience humaine qui ne soit imprégnée de sentiments. Donc, de l'un au moins de ces affects. Désir, joie, tristesse. Donc, des sentiments voilà, fondamentaux, qui sont au fondement de toutes nos expériences. Et pour Spinoza, la réalité humaine, elle est affectivement qualifiée. C'est-à-dire toutes nos expériences sont qualifiées affectivement par du désir et de la joie ou de la tristesse. Donc le désir, c'est le concept central et majeur dans la philosophie de Spinoza. Donc avant d'arriver sur la joie, il va falloir partir du désir. C'est pour Spinoza l'expression de notre puissance. C'est la proposition 6 du livre 3 de l'éthique. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Donc ce qui est essentiel à une chose, quelle qu'elle soit, et ça vaut pour toute chose existante, c'est cet effort-là, ce que Spinoza appelle en latin, parce qu'il écrit en latin, le conatus, ça vient du verbe conare, en latin, qui signifie s'efforcer, faire effort, pour persévérer dans l'existence. Donc cet effort, c'est l'essence de chaque chose. Bon. Et ça veut dire que chaque chose est une partie de la puissance infinie de la nature que Spinoza identifie à Dieu. Alors, je ne sais pas quelle est votre connaissance de la philosophie de Spinoza en particulier, mais il a une formule très célèbre, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est une seule et même chose. Donc, il ne faut pas faut pas donner de sens religieux quand on voit le terme Dieu, c'est ça qui n'est pas évident chez Spinoza, hein, il laïcise tous les termes religieux. Dieu, la nature, c'est une seule et même chose, c'est-à-dire la réalité qui est absolument infinie. Bon. Et donc, vu que c'est absolument infini, tout ce qui existe en fait partie. Et donc, tout ce qui existe a une partie de la puissance infinie de Dieu. Et nous, ça va s'exprimer à travers notre désir. Donc, cet effort, pour persévérer dans l'existence, c'est, ce qui fait l'essence, la nature de chaque chose. Ça veut dire que si on fait l'analyse du concept d'un être, la première propriété essentielle qu'on va trouver, c'est cet effort. Donc le conatus, c'est ce sans quoi une chose ne peut pas être. Sans cet effort, rien ne pourrait continuer à exister. Donc toute vie, ce serait d'être sans cet effort et ce serait d'exister. Et donc pour l'homme, cet effort devient conscient et ça s'appelle le désir. Bon. Et donc pour Spinoza, le désir, c'est l'essence de chaque homme. On peut comprendre finalement un homme en fonction de ce qu'il désire et donc des idéaux qu'il va avoir. On va y revenir. Donc vivre pour Spinoza, c'est d'abord s'efforcer de continuer à vivre. Il identifie vivre et s'efforcer de vivre. Bon. Et cet effort devenu conscient, ça exprime le désir, donc la nature de chacun. Alors, première conséquence qu'on peut en dégager, c'est que la vie d'un individu ne possède rien en elle, à l'intérieur d'elle, qui serait susceptible de la détruire, de la faire mourir. La mort, pour Spinoza, il la pense, et ça c'est Deleuze aussi qui le montre très bien, comme une mauvaise rencontre. C'est-à-dire, au fond, on est, au bout d'un moment, surpassé par l'ensemble des forces extérieures. Mais la mort ne vient jamais de nous. Et ça va avoir une importance capitale pour comprendre ce qu'est la joie. Donc c'est seulement dans la mesure où une vie est affectée par un objet extérieur à elle et contraire à sa puissance qu'elle peut être détruite. Donc on sera détruit nécessairement parce qu'on sera surpassé par l'ensemble des forces de la nature. Mais la mort n'est pas inscrite en nous. La mort, c'est vraiment ce qui nous est absolument étranger, d'une certaine manière. Donc tant qu'un objet extérieur néfaste n'affecte pas un être vivant, cette vie individuelle continuera indéfiniment à exister en vertu précisément de l'effort continuel qu'elle fait pour persévérer dans son être, en vertu de son désir toujours actif. Autrement dit, si nous avons parfois l'impression de vivre passivement, d'être traversés passivement par la vie, nous ne pouvons pas considérer que cette passivité réside à l'intérieur de nous-mêmes, que cette passivité nous appartient. En fait, à chaque instant de notre vie, pour Spinoza, nous demeurons actifs, nous posons notre désir d'exister, qui est notre essence, notre nature, donc qui est ce sans quoi nous serions morts, mais qui est aussi notre puissance. Hein, Spinoza identifie désir, puissance, sachant qu'il ne faut pas entendre par puissance la puissance physique ou le pouvoir sur autrui. Donc ce sont quoi qui est ce par quoi nous pouvons continuer à vivre, et au niveau physique, c'est les battements du cœur, c'est un effort musculaire qui est continuel, même s'il n'est pas intentionnel et s'il n'est pas conscient. Donc nous sommes continuellement impliqués activement dans l'existence, car nous ne pourrions pas exister si nous n'affirmions pas, en quelque manière, notre désir de vivre. Et pour prendre un exemple extrême, même un individu suicidaire continue à poser son désir de vivre, tout simplement parce qu'il est encore en vie. En un sens, son envie suicidaire est contredite par son désir de vie, manifesté par le fait même qu'il est en vie. Alors, il y a un médecin au 19e siècle qui s'appelle Bichat, qui a une définition célèbre de la vie, qui dit « la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort ». Et c'est une définition tout à fait spinoziste. Vivre, c'est résister. Il y a un ouvrage aussi contemporain sur Spinoza qui s'appelle « La stratégie et la résistance du conatus ». Donc chaque conatus résiste à tout ce qui pourrait lui nuire et donc le détruire. Vivre, c'est résister, d'une certaine manière, et c'est s'affirmer. Alors, deux remarques là-dessus. L'affect, qu'est-ce qu'un affect? Alors, c'est l'idée d'une affection du corps, et donc c'est ce qu'il traite dans la troisième partie. Hein. Il traite des affects, c'est-à-dire des sentiments. Et il en traite de manière géométrique, hein, selon cette formule très célèbre et très provocante. Un affect, ça désigne à la fois l'idée d'une affection du corps qui correspond à une augmentation, une diminution de sa puissance d'agir. Donc, un affect, pour Spinoza, un sentiment, c'est le retentissement mental, bon, donc il appelle ça une idée, de la variation de notre puissance d'exister. On existe, plus ou moins, et en même temps, on en a l'idée, et donc le sentiment, ça va être ça. Ça va correspondre aux variations de notre puissance d'exister. Donc, ce qu'indique l'idée ainsi perçue, c'est d'abord un état momentané de notre corps, et donc une variation par rapport à son état précédent, qui va dans le sens de l'augmentation ou de la diminution. Et donc, ça marque un épanouissement ou une restriction. Donc, vous comprenez que la joie, ça va marquer un épanouissement, la tristesse, une diminution de notre puissance d'exister. Donc, l'affectivité, hein, dont Spinoza traite dans la troisième partie, à la manière des géomètres, more geometrico, comme il dit, c'est-à-dire de manière entièrement rationnelle, ce qui ne veut pas dire que nos comportements sont rationnels, ça veut dire que l'affectivité, ça met parfaitement en lumière, pour lui que l'âme et le corps, c'est inséparable. C'est une seule et même chose, mais vue sous des aspects différents. Le corps, c'est vu sous ce qu'il appelle l'attribut de l'étendue, des choses matérielles, étendues, physiques, hein, dont notre corps est une partie. Et l'âme, qui est l'idée du corps, c'est la même chose, mais vue sous un autre aspect, un autre attribut de la nature, de la puissance infinie de la nature, donc sous l'aspect de l'esprit. Bon. Première remarque, voilà, ça c'était pour les affects. Et deuxième remarque, les affects, comme toute chose pour Spinoza, ils peuvent être intégralement compris. Ça veut dire qu'ils sont entièrement compréhensibles, pas immédiatement, mais en droit, en principe, on peut tous et parfaitement les comprendre. Ils sont tous explicables. Ça ne veut pas dire que les hommes agissent intelligemment, loin de là. Donc, ils ne sont pas d'abord et spontanément intelligibles pour l'être humain, mais il n'est pas impossible de les expliquer si on les comprend par leur vraie cause, donc en montrant la genèse et la composition de leurs forces. Et donc, c'est ce que va faire Spinoza, notamment dans la partie 3 et la partie 4, qui est une sorte de géométrie des affects. Et d'où cette formule frappante, je considérerai les actions, les appétits. Alors, appétit, hein, c'est-à-dire appétérer en latin, le fait de s'efforcer, de tendre vers, c'est synonyme d'un désir irrationnel, hein, bon, le désir, voilà, comme s'il était question de ligne, de plan ou de corps. C'est-à-dire de manière aussi intelligible et rationnelle. Ça s'explique autant et aussi bien que des objets mathématiques. Bon. Alors Spinoza, c'est un rationalisme intégral. Tout peut être compris. Alors, le désir, intrinsèquement, n'est pas souffrance mais joie. Donc, il y a trois affects fondamentaux. Désir, la tristesse. Donc, la tristesse, c'est une passion. Et passion, ça, là encore, ça n'a pas le sens contemporain. Hein, mais c'est une passion par laquelle l'homme passe à une moindre perfection, l'homme à la fois corps et esprit. Et la joie, c'est un affect, et donc pas seulement une passion, grâce auquel il passe à une plus grande perfection. Alors, donc, ça, ce sont les trois affects fondamentaux. Tous les autres, hein, tous ceux qui sont plus complexes, sont des combinaisons de ces trois affects fondamentaux-là. Il y en a au moins un ou deux. Ce qu'il faut noter, c'est que pour la tristesse et la joie, ce sont des passages, des transitions, transitionnés, hein, en latin. Donc, ça ne résulte pas d'une comparaison que l'individu affecté établirait entre deux états de perfection différents. Ça veut dire que ce n'est pas la perte ou la privation d'une certaine quantité de ma puissance qui me rend triste, mais c'est l'acte d'une force qui s'oppose à mon conatus. Donc dans la tristesse, ma puissance d'agir est contrariée, voire diminuée, par l'affirmation d'une autre puissance, plus grande, supérieure, hein, mais le processus global demeure, lui, entièrement positif. Donc ce sont deux forces qui s'affrontent et qui sont aussi positives l'une que l'autre, c'est-à-dire aussi réelles. Donc la négativité, elle n'est qu'externe pour le conatus lorsqu'il est empêché dans son effort de persévérance. Donc les affects de joie sont les moteurs et les résultats d'une augmentation de notre puissance, tandis que les passions tristes, et la tristesse est forcément une passion pour Spinoza, et une passion, c'est le sens classique du terme, c'est-à-dire ce qui, d'une certaine manière, nous abrutit, c'est-à-dire ce qui nous rend moins compréhensifs. C'est l'âme qui est passive. C'est-à-dire, finalement, on est moins capable d'être intelligent, finalement. C'est ce passion, ce sens-là. Au sens où ça s'oppose à la raison, à l'activité de la raison. Donc, la tristesse est forcément de l'ordre de la passion. La joie, non. Donc, les passions tristes, la tristesse, la haine, la douleur, la crainte, bon, sont les moteurs et les résultats d'une diminution de notre puissance, et notamment notre puissance de comprendre. Donc, ça veut dire que Spinoza ne conçoit pas le bonheur ou la joie à la manière de Schopenhauer. Hein, on est même aux antipodes. Hein. C'est-à-dire qu'il ne considère pas le désir comme une souffrance en soi, et le bonheur comme la simple absence momentanée et inconsciente de cette souffrance. Alors, Schopenhauer, hein, je ne sais pas si vous voyez, philosophe allemand, première moitié du 19e siècle, qui a écrit son œuvre majeure en 1818, à 30 ans, c'est-à-dire le monde comme volonté, comme représentation, et il a une formule, qui est la formule la plus triste de toute l'histoire de la philosophie, et donc quand je dis ça à mes élèves, ils attendent ça avec impatience. La plus triste de toute l'histoire de la philosophie, c'est quand même lui qui l'a écrite, hein. Notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui. Voilà. Donc, c'est le pessimisme absolu, dans toute sa splendeur. Soit on souffre, c'est-à-dire on désire, donc on n'a pas ce qu'on veut, Soit on l'a, mais on ne s'en rend pas compte que c'est bien, et très vite on s'ennuie. Et puis voilà. Et donc je dis à mes élèves, bonne vie. Mais heureusement, Spinoza offre une alternative à ça quand même. Donc pour lui, pour Schopenhauer, dans cette logique-là, du désir, comme souffrance, manque, voilà, donc tristesse, il ne faut pas du coup avoir des idéaux trop élevés. Hein, Schopenhauer dit aussi, le meilleur moyen pour ne pas être très malheureux, c'est de ne pas demander à être trop ou très heureux. Vous voyez, donc surtout ne pas avoir des idéaux trop élevés parce qu'on sera forcément déçu. Donc hein, le mieux qu'on puisse attendre, c'est de temps en temps de ne pas trop souffrir. Vous voyez, donc le bonheur, c'est quelque chose de négatif, pas au sens d'un jugement de valeur, mais c'est une absence momentanée de souffrance. Bon. Donc ça, c'est le pessimisme. Hein, dans une vie essentiellement souffrante, on peut viser au mieux que l'absence de souffrance, donc un bonheur négatif. Spinoza, au contraire, considère qu'il est possible d'obtenir un bonheur qui est une joie positive, une augmentation de notre puissance, c'est-à-dire un accroissement de soi, corps et âme, un épanouissement intense et ressenti. Donc c'est dans ce contexte qu'il fait du désir, en tant que pulsion de vie, en tant que puissance en acte, une condition du bonheur, de la joie. Donc le désir qui est le moyen par excellence de nous développer, est vécu lui-même comme une joie et comme un plaisir. Alors, la complexité de la vie affective. Pour Spinoza, la situation affective... Notre vie affective, il le sait très bien qu'elle est très complexe. Parce que les combinaisons possibles sont indénombrables. Et il en analyse beaucoup, hein, les plus courantes, dans le livre 3, qui est un livre en même temps d'une grande subtilité. Donc on ne pourrait pas déduire d'y nommer tous les affects qui procèdent de ces trois principaux, mais l'essentiel, c'est de comprendre la logique de leur combinaison. La joie et la tristesse, en fait, elles sont rarement éprouvées comme telles. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont deux logiques contraires qui gouvernent tous les processus affectifs. Donc le plus souvent, parce que le désir est déterminé par une affection particulière dans l'esprit à l'idée, la joie et la tristesse se fixent sur un objet particulier, perçu de manière imaginaire, comme la cause des affects éprouvés. Donc, en effet, en même temps que la puissance d'agir du corps varie, elle diminue ou elle augmente, l'esprit imagine que la chose présentée par l'image corporelle, c'est la cause de ses propres variations affectives. Et c'est ça qui va expliquer l'amour et la haine. Donc l'amour, c'est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure, et la haine, une tristesse qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Alors, quand je commence mon cours de philosophie en début d'année, j'ai toujours aux élèves qu'il faut conceptualiser. Conceptualiser, ça veut dire définir rigoureusement. Mais philosopher, c'est réfléchir rigoureusement sur des choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir. Et donc je prends volontairement l'exemple du concept d'amour pour Spinoza, parce que d'abord, quand on voit ça, on ne comprend rien. Et... en même temps, ce qui est fascinant avec Spinoza, c'est à quel point la logique la plus radicale, le rationalisme intégral, peut rejoindre l'expérience la plus intime et la plus concrète. Donc il faut décortiquer. L'amour est une joie. Essentiellement, c'est une joie. Et accompagner, pas causer, hein, accompagner en même temps, hein, qu'on a une idée, l'idée d'une cause extérieure. Donc, au fond, c'est très simple. Quand vous aimez quelqu'un, on peut prendre l'exemple finalement le plus simple, hein, dans toute sa pureté, l'amour qu'éprouve une mère pour son enfant. Donc quand elle y pense, quand elle a l'idée de son enfant, elle se sent davantage exister. Elle sent que sa puissance d'exister est plus importante. Donc si jamais quelqu'un vient vous voir et vous dit bah, « Tiens, je suis content que tu existes, merci d'exister », c'est une déclaration d'amour spinoziste. Donc ça arrive pas souvent, mais voilà, c'est comme ça que ça se formule. Et la haine, c'est l'inverse. Donc on sent une diminution de notre puissance d'exister à l'idée de quelque chose. Bon, vous voyez que c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être ce que vous voulez, une nation, un groupe d'individus, un film, un match de foot. De ce point de vue-là, Spinoza définit comme Aristote l'amour comme une réjouissance. Hein, Aristote, il a cette formule « aimer, c'est se réjouir ». Et il s'oppose à toute une tradition qu'on pourrait faire remonter à Platon, en passant par Épicure, hein, qui tient l'amour comme étant un désir non naturel et non nécessaire, donc du coup forcément à éviter, parce que c'est forcément une tristesse, ça nous rend forcément exclusifs, dépendants, jaloux. Bon, voilà. Hein. Donc, autant la sexualité, ça va, parce que c'est naturel. Donc, autant l'amour, c'est à fuir. Donc, Épicure serait dans la logique du sex friend, on en dirait aujourd'hui. Et en passant par Schopenhauer, qui a une métaphysique de l'amour, mais quand on lit ça, c'est totalement déprimant. C'est une manière, dans la, La nature nous illusionne pour nous faire croire qu'il y a une personne qui sort du lot, et en fait, c'est juste un moyen pour la nature de se reproduire. Et bon, donc, on est dans l'illusion totalement. Jusqu'à Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Bon, et même Sartre, hein, donc, de ce point de vue-là, Spinoza sort de toute cette tradition. Donc, ce qui est important, c'est qu'à travers cette définition, l'objet des affects est second par rapport aux variations de la puissance d'agir. D'ailleurs, il y a une priorité logique et non pas chronologique du désir, puisqu'il y a accompagnement de l'idée d'une cause. C'est parce qu'en même temps que je suis triste ou joyeux, l'âme a une idée, qu'elle la pose, cette idée, comme cause de mes affects, et partant objet de mon désir. Et là commencent tous les problèmes, le début des illusions. On croit que c'est forcément telle personne ou telle chose qui va être la cause de mon amour. Bon. Donc, conséquence, Spinoza opère en fait une démystification des sentiments d'amour et de haine. Je puis aimer ou haïr quelqu'un, non pas parce qu'il est la cause véritable de cet affect d'amour ou de haine en moi, même si j'en suis convaincu, mais pour la simple raison qu'il se présente à moi et que j'en ai l'idée au moment où ma puissance d'agir est accrue ou diminuée. Et donc, je vais lui en imputer la responsabilité. Donc, en fait, en vertu d'une cause que j'ignore. Hein, comme dit Spinoza, n'importe quelle chose peut être par accident cause de joie, de tristesse ou de désir. Et on va croire que c'est cette chose-là qui est responsable. Au fond, on aime et on déteste, on hait des choses souvent imaginaires. C'est-à-dire, c'est notre imagination qui nous fait croire que ce sont ces choses-là qui sont responsables, auxquelles nous avons occasionnellement attaché nos désirs, nos joies et nos peines, sans que cet attachement soit nécessairement déterminé par une cause intrinsèque et interne. Donc la vie affective, pour Spinoza, est vouée à l'arbitraire des circonstances et des occasions. Elle est entièrement explicable et en même temps entièrement arbitraire. Donc, si le rapport entre la chose contemplée et l'affect éprouvé peut être accidentel, la plupart du temps c'est le cas, ce processus obéit malgré tout à une logique rigoureuse qui rend les affects nécessaires. Et Spinoza, la philosophie de Spinoza, c'est assez connu, c'est un déterminisme intégral. Tout a une cause, tout est déterminé, tout est nécessaire. Ça ne veut pas dire prévu à l'avance. Bon. Donc il y a une logique des affects, et donc qui est au cœur de la composition des affects, c'est une logique de la similitude. C'est-à-dire que je peux aimer ou haïr quelqu'un seulement parce qu'il ressemble, hein, ou du moins c'est ce que j'imagine, à quelqu'un que j'ai déjà aimé ou haï, donc par un transfert affectif. Et la plupart du temps, c'est le cas. Et ça explique la façon dont se combinent ordinairement nos sentiments. Donc c'est la citation que vous avez en bas. De cela seul que nous imaginons qu'une chose a une ressemblance, hein, donc similitude, ressemblance, contiguïté, dans le temps ou dans l'espace, avec un objet qui affecte habituellement l'esprit de joie ou de tristesse, et même si ce en quoi la chose ressemble à l'objet n'est pas la cause efficiente de ces affects, pourtant nous aimons cette chose ou bien nous l'aurons en haine. Donc le penchant et la répulsion que nous éprouvons à l'égard de certaines choses peuvent se communiquer de proche en proche à d'autres choses, au seul prétexte de leur ressemblance ou de leur contiguïté, occasionnelle, factuelle, hasardeuse, avec donc les premières. Donc Spinoza, en exposant le mécanisme de l'association par ressemblance ou contiguïté qui sous-tend les phénomènes affectifs, il en révèle à la fois la logique et l'arbitraire. C'est-à-dire que c'est un mélange de hasard et de nécessité, pour reprendre un titre de Jacques Monod. Et donc, on va catégoriser les choses en les plaçant sous des idées générales, fondées sur des ressemblances imaginées et en négligeant leurs différences. Par conséquent, on rencontre ces choses en étant des gens disposés par un affect déterminé, au lieu d'être affecté par la singularité. Ça veut dire que l'affect, la majeure partie du temps, c'est un préjugé. Et donc, c'est comme ça que Spinoza explique justement le sentiment raciste. C'est un affect qui s'ignore lui-même et qui vise à se justifier à travers une pseudo-scientificité biologique. Donc, si quelqu'un a été affecté par quelqu'un d'une certaine classe ou nation différente de la sienne, d'une joie ou d'une tristesse accompagnée comme cause de l'idée de celui-ci, sous le nom universel de sa classe, ou de sa nation, il aimera ou il aura en haine non seulement celui-ci, mais tous ceux de la même classe ou nation. Oui.
Juste une petite question de précision, pour être sûr que j'ai bien compris, et je pense peut-être d'autres. Tu dis, l'amour est une joie qu'accompagne une cause.
L'idée d'une cause extérieure.
Une cause extérieure. Et tu dis, en fait, on distingue les deux, la joie et la cause extérieure.
Oui, oui.
Mais d'où vient la joie, alors, exactement ?
La joie, elle vient de nous.
Elle vient de nous.
Alors, promis, je vais y arriver. Hein.
Okay,
mais c'est en fait la joie, il la conçoit comme une intensification de notre désir interne, de notre conatus.
Mais qui est par quoi cette augmentation alors,
s'il n'y a pas causalité.
Si ce n'est pas la cause.
Alors, c'est rarement les causes que l'on croit, mais c'est une. Alors, je vais y arriver. Hein. C'est, pour lui, c'est essentiellement le fait de que notre puissance d'agir et de comprendre, elle devient plus forte et plus grande. Bon, après, quelles sont exactement les causes? Il peut y en avoir de très nombreuses, hein. Mais c'est une augmentation de notre puissance. Et le problème, c'est qu'on a du coup tendance, quand on est comme ça, on valorise et on ne comprend pas les vraies raisons. Mais les vraies raisons sont internes. Bon, on y arrive. Alors, juste pour ce sentiment raciste, Spinoza, il donnerait raison à Sartre. Par exemple, Sartre, dans les réflexions sur la question juive, il refuse de reconnaître dans l'antisémitisme une opinion. Hein, c'est le début de réflexion sur la question juive. Il dit, ben, c'est pas une opinion, c'est essentiellement un sentiment. Et donc, il ramène le contenu cognitif de cette passion haineuse à une proposition aussi absurde que il doit y avoir quelque chose dans la tomate de mauvais, puisque j'ai horreur d'en manger. Bon. Hein, voilà. L'individu a été mauvais, il est méchant à mon égard, il est juif, donc forcément ça explique qu'il soit mauvais, et donc tous les juifs sont mauvais. Bon. Donc en fait, c'est un état passionnel qui s'accompagne d'une conception délirante du monde. Donc, les idées générales indique moins une réalité objective que le pouvoir d'imaginer de l'âme, ou plus exactement, les limites de ce pouvoir. Car l'imagination, pour Spinoza, c'est l'idée confuse d'un corps qui ne peut conserver distinctement la marque des choses extérieures qui viennent l'impressionner en masse. Donc Spinoza, si vous voulez, montre que la force de l'imagination, elle est forcément limitée. Et donc, c'est un degré inférieur de connaissance. Ça veut dire que les prétendues notions universelles, comme les termes, ce qu'on appelle transcendantaux, s'explique par la pure confusion. C'est aussi arbitraire et aussi passivement reçu que les sensations. Mon corps, il est limité. Il peut former qu'un certain nombre d'images à la fois. Si ce nombre, il est dépassé, les images se confondent et l'âme imagine sans aucune distinction. Donc, c'est de cette façon que se forment les idées d'homme, de chien, de cheval, voilà, les notions universelles. Et donc, en gros, pour Spinoza, c'est pour ça qu'en fait, il abandonne une définition générale de l'homme. Hein, souvent, en philosophie, on le définit comme animal raisonnable. Et lui, ce qu'il nous dit plutôt, hein, le désir et l'essence de chacun. Donc en fait, il n'y a que des individus singuliers. Et justement, la joie, ça peut nous rendre compréhensifs par rapport à cette singularité. Mais dès qu'on forme une idée générale, on risque de rater la singularité des individus. Donc la représentation générique d'homme supplée, hein, l'incapacité d'avoir une représentation distincte de tous les hommes en particulier, avec les différences individuelles attachées à chacun. Donc, les idées générales, pour Spinoza, ce sont des passions de l'esprit. Et donc, lorsque Spinoza il aborde l'étude des affects actifs, à la fin de la troisième partie, hein, donc ceux qui ne sont pas des passions, il montre en même temps que la tristesse et la passivité, ça va toujours de pair. Donc, cette formule, hein, l'esprit, en tant qu'il est triste, sa puissance de comprendre, c'est-à-dire d'agir, se trouve diminuée ou bien contrariée. En gros, la tristesse, ça nous abrutit. Ça nous rend incapables de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre les autres. Donc l'affect de tristesse, il est toujours de l'ordre de la passion pour Spinoza, hein, donc au sens classique du terme, hein, pas au sens actuel. La tristesse est nécessairement un sentiment passif, donc lié à des idées fausses. Alors Spinoza ne parle pas d'idées fausses, il parle d'idées inadéquates, c'est-à-dire insuffisantes, qui ne comprennent pas les vraies causes. Ce qui n'est pas le cas de la joie, qui est souvent passive, mais qui seule peut devenir active, et nous rendre actifs intellectuellement. Donc la tristesse et tous les affects qui en sont composés nous maintiennent plus sûrement dans le plus bas degré de la connaissance que les affects joyeux. Donc, dans toute tristesse, l'esprit passe lui-même à une moindre perfection. Et ça limite donc ses conditions de compréhension. Ça influence l'imagination qu'il a, aussi bien de la cause de sa tristesse que de ce qui peut en exclure l'existence. Et donc, souvent, on est dans une logique de bouc émissaire. Donc, pour Spinoza, penser tristement, c'est tout simplement mal penser. La réciproque n'est pas vraie. Parce qu'il est possible de penser joyeusement et mal lorsque la joie en question, elle est passive. Bon. Donc, penser tristement, c'est se rendre incapable d'avoir des idées adéquates et de comprendre le réel, le monde, Dieu, c'est-à-dire le réel, les autres et soi-même. Donc, un raisonnement haineux est bien plus faible, bien plus grossier, schématique et simpliste, en un mot bien plus imparfait qu'un raisonnement amoureux, hein, entre guillemets, si on peut appeler ainsi un raisonnement qui procède d'une joie, accompagné de l'idée d'une cause extérieure, hein, la définition que Spinoza donne de l'amour. Car la haine, donc, elle généralise hâtivement. C'est une induction hâtive et faussée qui empêche de comprendre la singularité des choses et des individus. Donc, dans le cas de cette passion haineuse qu'est le racisme, par exemple, hein, ça passe par des affirmations générales et vides sur un type d'individu provenant d'expériences singulières et de sentiments négatifs à la fois, tels que les juifs sont, les noirs sont, ce que vous voulez. Affirmation qui ne renvoie à rien de réel, mais préjuge et empêche justement de connaître les individus ainsi catégorisés de façon arbitraire. Autre exemple, la superstition. Exemple très courant chez Spinoza. Donc j'insiste sur ça parce que, évidemment, vous êtes là pour qu'on parle de la joie, mais il faut comprendre que ce sont deux logiques opposées. Et vous comprenez que la joie nous libère si vous comprenez que c'est la tristesse qui nous asservit. Et bon, du coup, on a une conception délirante du monde, mais là où ça nous a servi, c'est qu'on ne comprend pas que ça vient de nous, cette conception délirante, et du fait qu'on est triste. Qu'est-ce que c'est que la superstition? Spinoza en traite dans le très célèbre appendice du livre 1 de l'éthique, et aussi au début du traité théologico-politique, dans la préface. La superstition, c'est la croyance à l'existence de présages. Donc, bon ou mauvais présage. Hein, dès qu'on dit, ah bah tiens, ça c'est un bon présage, c'est un mauvais présage, bon, c'est la superstition. Comme si la nature nous envoyait des signes. Bon, ce qui ne renvoie rien d'objectif pour Spinoza. La nature n'envoie pas des signes, elle a des lois, elle n'a aucune intention. Donc ce ne sont que des préjugés hein, qui nous font imaginer ça, qu'il y a des bons ou des mauvais présages. Donc c'est une représentation imaginaire de la réalité qui correspond à une vision finaliste de la nature, hein, celle que Spinoza démonte d'une certaine manière dans toute la première partie hein, de l'éthique. Et Spinoza écrit dans le traité théologico-politique qu'il y a un lien nécessaire entre la superstition et la crainte. Les hommes ne sont la proie de la superstition qu'autant que dure la crainte. Ça, c'est dans la préface du traité théologico-politique. Tout le culte qu'ils ont pratiqué sous l'empire d'une vaine religion n'est que fantôme et délire d'une âme triste et craintive. Alors, préface du traité théologico-politique. Et Spinoza, c'est le grand penseur du lien entre la politique et les affects. C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui entretiennent ça, la superstition et la crainte. Bon, ben, ils ne vous veulent pas du bien. Et donc, c'est notamment la monarchie, les régimes absolutistes qui veulent gouverner les hommes comme si c'était du bétail. Donc, ils veulent les asservir le plus possible. Et le meilleur moyen d'asservir les hommes, c'est de provoquer de la crainte chez eux et de les rendre superstitieux. Bon. Alors, donc la passion, les passions. Une passion, c'est une idée confuse, au fond. C'est Spinoza caractérise cela comme la confusion mentale. Et la plupart de nos comportements affectifs spontanés sont entachés de passivité, donc ils sont passionnels en ce sens-là. L'exemple que Spinoza donne, c'est l'exemple de l'intolérance. Lui, il appelle pas ça l'intolérance, il appelle ça l'ambition. Et en fait, c'est une forme d'orgueil. C'est chacun, par nature, spontanément, aspire à ce que tous les autres vivent selon leur propre tempérament. Et c'est ça la plupart des causes de conflit entre les hommes. Au fond, c'est ce qu'il appelle l'ambition. Et on veut que les autres vivent selon notre nature, notre caractère, nos goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et qui partagent les mêmes. Bon, hein, la plupart des causes de conflit, c'est d'abord ça. Donc, dans sa forme excessive, ce désir se manifeste par la persécution des autres pour leurs différences de croyance et de pratique. Et Spinoza écrit ensuite que tous y aspirant de pair, ils se font obstacle de pair, hein, et tous voulant être loués ou bien aimés de tous, ils se haïssent les uns les autres. Donc cette souffrance infligée aux autres est nuisible, aux persécutés évidemment, mais aux persécuteurs aussi, parce qu'elle n'exprime pas la vraie nature de cet affect, qui consiste en réalité dans un désir de la part de chaque homme de faire que les autres se réjouissent du bien dont lui-même se réjouit. En fait, il y a ça au départ. Il y a un désir positif. On se réjouit de quelque chose, et au fond, on voudrait que les autres se réjouissent de la même chose que nous. Et Spinoza nous dit, mais si vous le comprenez, vous comprenez ça, en fait. C'est à ça qu'il faut revenir. Et donc, c'est quand vous ne le comprenez pas que vous allez être insupportable aux autres. Donc, en fait, ça découle d'une logique de tous les affects, qui est la logique de l'imitation des affects, qui est centrale hein, dans la vie affective, donc d'une sorte d'émulation naturelle entre les hommes. Mais Spinoza nous dit, si vous comprenez, Spinoza, c'est quelqu'un qui fait confiance, c'est ça son rationalisme, c'est en gros, il fait confiance à notre capacité à comprendre. Si on comprend la véritable nature de ce sentiment, ça permettrait de substituer ce qu'il appelle la piété. Alors là, ça, Spinoza laïcise tous les termes religieux, donc piété, ce n'est pas le sens courant. C'est la volonté de faire du bien aux autres, parce qu'on comprend, hein, donc par intelligence, sur la conduite de la raison, comme il dit, on comprend la véritable nature de nos affects. Donc on substitue la piété à l'ambition, hein, on pourrait dire une forme de générosité intelligente. Et on agit moralement en cherchant à aider intelligemment les autres avec humanité et bienveillance. Donc, le remède, transformer les passions tristes en passions joyeuses. Et donc l'exemple des désirs excessifs. Donc l'éthique spinozienne, c'est une éthique de la vie, repose sur la distinction entre passion triste, passion joyeuse. Contrairement aux éthiques courantes, aux morales courantes, notamment stoïciennes, il faut rejeter les passions, et du coup, le sage, on a l'habitude de penser le sage comme étant quelqu'un d'insensible. Pour Spinoza, c'est une absurdité. La sensibilité, les affects, les sentiments, c'est le terreau de la vie affective humaine, de la vie humaine. Bon, tout ce qu'on fait, c'est imprégné de sentiments, donc on ne peut pas s'en couper. Par contre, il va falloir essayer de se séparer de certains sentiments en valorisant d'autres. Donc les passions joyeuses contre les passions tristes. Alors, ça ne veut pas dire les abolir, les passions tristes, mais plutôt les transformer par la compréhension, par leur véritable origine. Donc il faut comprendre que tous les désirs, même ceux qui paraissent négatifs, possèdent en fait un élément de joie, de puissance, qui attend d'être révélé. Donc même les désirs potentiellement excessifs, la gourmandise, c'est un amour excessif de la nourriture, hein. L'ivrognerie, l'amour de la boisson, la lubricité, du rapport charnel entre les corps. Donc si on les comprend dans leur dimension joyeuse et active, ils peuvent se transformer en désirs modérés et plus conformes à notre nature. Donc Spinoza nous fait comprendre qu'il faut toujours voir ce qu'il y a de positif dans les choses, mais positif d'abord au sens étymologique. Positum en latin, ça veut dire réel. C'est dans ce sens-là qu'on parle du positivisme. Donc il dit, ça c'est au début de la cinquième partie de l'éthique, en ordonnant nos pensées et nos images, nous devons toujours prêter attention à ce qu'il y a de bon en chaque chose, et aussi en chaque individu. Et déjà, il faut quand même avoir une certaine quantité de joie et donc de puissance, dans le sens de Spinoza, pour être capable de ça, de voir ce qu'il y a de bon en chaque chose, afin qu'ainsi, vous voyez comment la joie, c'est à la fois un moteur et une conséquence. Nous soyons toujours déterminés à agir par un affect de joie. Alors, donc connaître les sens adéquats de nos désirs. Donc Spinoza, c'est une pensée de la vie et non de la mort. Il s'oppose à tous les philosophes classiques, pour qui philosopher, c'est apprendre à mourir. Depuis Platon, en passant par Montaigne, Heidegger, ceux qui recommandaient de méditer sur la mort, les stoïciens. Sa formule célèbre, donc dans le quatrième livre, proposition 67, l'homme libre, pas joyeux, libre. Donc pour Spinoza, il y a un lien essentiel entre la joie et la liberté. L'homme libre, c'est celui qui comprend. Bon, la liberté repose sur la compréhension. Mais cette compréhension, d'abord, elle repose sur la joie. Ne pense à rien moins qu'à la mort. Et sa sagesse, c'est une méditation non de la mort, mais de la vie. Alors, le désir. Si on comprend le désir mal, on croit qu'il est tendu vers une satisfaction finale, définitive, et au fond, Spinoza nous dit ça, c'est un désir de mort. Là, vous ne le comprenez pas vraiment. C'est-à-dire le désir de ne plus désirer, de ne plus vivre. Ça, c'est la logique de Schopenhauer, et de beaucoup de gens et de beaucoup de philosophes. C'est un désir pathologique, en fait. C'est un désir souffrant, qui nous entraîne vers une logique circulaire et infinie du manque. Parce qu'il n'y a pas de satisfaction vraiment finale en ce sens-là, au sens où elle arrêterait le désir. Donc ce désir, c'est un désir dont on n'a pas encore une connaissance adéquate. Et c'est pour ça qu'il nous rend triste. On ne reconnaît pas dans ce désir l'essence même de tout désir qui devrait être lié à la joie, à la puissance, au bonheur. Par exemple, si on veut satisfaire un désir vengeur ou colérique, ou si on veut satisfaire des désirs immodérés, la gourmandise, l'ivrognerie, la lubricité, c'est les exemples classiques de Spinoza, en fait, on fait l'expérience de la mort dans cette vie. C'est-à-dire, pour la vengeance, si on a battu l'individu contre qui on est en colère, si on a mangé jusqu'à satiété, si on a bu jusqu'à l'ivresse, ou si, dans le cas de la sexualité, on a éprouvé l'orgasme destructeur de tout désir, on peut se sentir comme mort, on parle de la petite mort d'ailleurs, éteint, anéanti. Et du coup, on va chercher avidement un nouveau désir pour esquiver ce sentiment d'abattement, lequel nouveau désir va nous entraîner vers une nouvelle petite mort, une nouvelle extinction, un nouvel anéantissement, et ainsi à l'infini. Mais cette mort permanente dans la vie, cette extinction, cet anéantissement indéfiniment renouvelé, Spinoza, lui, nous incite à les transfigurer, à les rendre plus conformes à la joie même d'être en vie. Il nous incite à modifier leur nature de telle sorte qu'ils soient analogues à une pulsion continue, à une intensité continue qui est toujours là, en fait, mais qu'on a tendance à oublier en se fixant sur des objets construits par notre imagination. Donc, une intensité continue où il n'y a plus de rupture déprimante et décevante. Donc, en gros, la colère, il faut la remplacer par la bienveillance. Et donc, ça consiste à remplacer un désir tendu vers une satisfaction finale, toujours insatisfaisante, donc destruction totale de l'ennemi, par un désir de demeurer continuellement, intensément, auprès de celui qu'on a transformé en ami, sans quête de satisfaction finale. Voilà, ça, c'est un désir intelligent. C'est une compréhension intelligente de notre désir aussi. Donc, parce qu'il supprime la mort dans la vie, Spinoza peut dire que, pour un vivant, la question de la mort, de la grande mort, n'est plus une question qui le concerne. Elle lui est absolument étrangère. Là-dessus, il est très épicurien aussi. La mort n'est rien pour nous. Bon. Donc, être en vie, et bien philosopher, pour Spinoza, ça va ensemble, c'est désirer continuellement et positivement la vie. C'est donc être joyeux, heureux de posséder ce que l'on possède, c'est-à-dire cette intensité du désir qui est toujours déjà là, donc cette joie qui est toujours déjà là. Donc, pour répondre à ta question tout à l'heure, la joie, elle est toujours là, finalement. Et par moments, on la fixe accidentellement sur des objets, et on croit que c'est ces objets qui vont la provoquer. Mais au fond, elle est toujours déjà là. Et donc, je vous conseille, on ne va pas avoir le temps, mais de regarder le début du traité de la réforme de l'entendement. Bon, ce n'est pas un titre extrêmement poétique. Traité de la réforme de l'entendement, mais ça veut simplement dire qu'il faut changer notre manière de voir. Il faut réformer, modifier notre manière de voir. Et je vous conseille les premières lignes. C'est un des textes les plus beaux qu'on ait écrit en philosophie sur la manière dont les expériences de la vie courantes sont très décevantes. Il prend donc ces exemples-là. Les hommes cherchent leur bonheur et leur joie dans les biens courants de la vie que sont la sexualité, les honneurs et les richesses, et ils sont déçus. Et du coup, lui, il cherche une joie suprême qu'on pourrait acquérir pour l'éternité, pas en étant immortel, mais pour l'éternité. Et finalement, en comprenant, on va comprendre qu'une certaine manière, elle était déjà là. Donc cette force de vie, elle est déjà en nous. Bon. Alors, je voulais faire une comparaison avec Spinoza et Rousseau, mais on va peut-être avancer, puis éventuellement, je pourrais y revenir. Alors, sur les désirs tristes et néfastes. Donc, ce sont des désirs qui sont non conformes à l'essence du désir. C'est le désir, en tant que désir de continuer à vivre, est intrinsèquement joie et bonheur, dans la mesure où le sentiment de se sentir exister, c'est lui-même une joie et un bonheur. Il existe néanmoins certains désirs qui diminuent notre puissance d'agir, qui nous amoindrissent, qui entretiennent notre tristesse et notre malheur. Bon, ils ne sont donc pas conformes à l'essence du désir, qui est puissance. Donc, il faut savoir les transfigurer. Par exemple, la colère. Donc, connaître le désir colérique adéquatement, pour Spinoza, c'est le supprimer en tant que colère. C'est le rendre conforme à l'essence de tout désir qui renvoie à la joie. Qu'est-ce que c'est que la colère? Un désir qui nous incite à faire du mal par haine à celui que nous haïssons. Donc la haine, c'est une tristesse, un amoindrissement de notre puissance. La colère sera donc un désir qui nous diminue, qui nous rend moins puissants et moins vivants. Mais Spinoza nous dit que le désir, essentiellement, est puissant, joie, accroissement de la vie. Il doit donc y avoir, même dans la colère, un élément de joie et de puissance que le coléreux doit savoir reconnaître pour cesser de se faire du mal à lui-même ainsi qu'à l'autre. Donc Spinoza dit qu'il y a la joie et puissance à chaque fois que nous avons une idée adéquate, conforme à la nature de la chose, et qu'il y a tristesse et haine, impuissance, à chaque fois que nous avons une idée inadéquate, non conforme à la nature des choses. Donc c'est parce que nous ne connaissons pas adéquatement notre colère que cette colère est un désir qui nous fait souffrir et qui fait souffrir l'autre. Mais si nous tentons de comprendre adéquatement ce qui cause, ce qui détermine la colère que nous éprouvons, alors nous redevenons actifs et joyeux, nous cessons d'être en colère. Nous comprendrons, par exemple, que nous sommes facilement en colère à cause d'un traumatisme vécu pendant l'enfance, qui nous fait supporter difficilement tel ou tel type d'individu, d'homme, de collègue. Et donc, le fait de connaître l'essence adéquate de notre désir négatif le transforme en désir positif, en joie, en bonheur. Alors, Freud s'en souviendra de ça. Donc, on peut comprendre que cet individu contre qui nous sommes en colère n'est pas en fait en cause dans notre mouvement de colère, mais que ce que nous désirons vraiment, tandis que nous désirons apparemment lui faire du mal, le motif inconscient, et la plupart des motifs qui déterminent les hommes sont inconscients, et vu qu'ils ne se rendent pas compte des causes qui les déterminent, ils se croient libres. La formule célèbre de Spinoza, c'est « les hommes se croient d'autant plus libres qu'ils ignorent les causes qui les déterminent ». Freud s'en souviendra dans le domaine psychologique. Marx dans le domaine économique, social, et puis Nietzsche dans le domaine, disons, de la vie. Bon, c'est-à-dire les philosophes du soupçon, comme on dit. Donc, en fait, ce que nous désirons vraiment, tandis que nous désirons lui faire du mal, c'est le fait de faire de lui un être compatible avec notre nature, un être non contraire à notre nature, un être avec qui nous pouvons nous accorder. En fait, c'est ça la vérité de notre désir. Donc, si on le comprend, on change un geste de haine en un geste d'amour. Et donc, on reconnaît des éléments de joie, de puissance, de bonheur qui étaient inscrits dans notre colère, dans notre désir contradictoire de lui faire du mal. Donc, avec Spinoza, on pourrait dire « connais la vérité de ton désir, et alors, même dans le cas où il t'apparaissait comme négatif, un désir souffrant, un désir non satisfaisant, il t'apparaîtra que comme tout désir, il peut devenir joie, puissance et bonheur. » Alors, donc, ça veut dire que le désir de vengeance aussi, si on le comprend adéquatement, il engendre le pardon. Là encore, ce n'est pas pour des raisons extérieures au désir. Vous voyez, c'est ça, en fait, de Spinoza, on dit toujours, c'est une philosophie de l'immanence. Oui, donc l'immanence du désir. Ça veut dire qu'il faut arrêter de croire que, hein, là-dessus, c'est comme les épicuréens, là encore, que s'il faut pardonner, c'est à la fois pour des raisons, je ne sais pas, sociales ou, encore pire, religieuses. Pas du tout. C'est pour nous-mêmes. Et c'est de ce point de vue de notre désir à nous que Spinoza se place. Bon. Donc, celui qui désire se venger d'un être qui lui a fait du mal, ce qui est tout à fait logique et compréhensible, pas justifiable, mais c'est d'une certaine manière dans la logique des affects. On veut nuire à celui qui nous a nuit. Celui qui a de la haine pour nous, d'abord, spontanément, on a de la haine pour lui. Ça, c'est la logique. Non, pas toujours. Alors, bravo, vous êtes arrivé peut-être à un degré supérieur de sagesse, mais on va dire, spontanément, bon, spontanément, normalement, souvent, ça se passe comme ça. Bon. Et donc, celui qui désire se venger d'un être qui lui a fait du mal peut comprendre, s'il arrive à être plus lucide, que dans ce désir, en fait, au fond de se dire, il y a un désir d'équilibrer les choses. Et qu'est-ce qui peut garantir l'équilibre? C'est le pardon. Alors, donc le désir, les puissances et joie, parce que c'est un désir créateur. Donc, la grande idée de Spinoza, c'est que le désir crée des valeurs. C'est le désir qui valorise. Alors, je vous ai mis la citation, c'est le grand tournant de l'éthique. On est donc en livre 3, proposition 9, Scoli. Voilà, donc nous ne nous efforçons pas vers quelque objet, nous ne le voulons, ne le poursuivons, ni ne le désirons parce que nous jugeons qu'il est un bien. Mais au contraire, nous ne jugeons qu'un objet est un bien que parce que nous nous efforçons vers lui, nous le voulons, le poursuivons, le désirons. Bon. Au début, c'est un petit peu complexe, mais parce que Spinoza, il essaie d'abord d'être le plus précis possible. En fait, qu'est-ce qu'il affirme là? Le relativisme des valeurs. Toute valeur est absolue, toute valeur est relative. Ça ne veut pas dire que tout est relatif. La nature, elle existe, et il y a des lois de la nature. Donc la vérité, elle est absolue. Les lois de la nature, elles sont absolues. Ça ne dépend pas des goûts et des points de vue. Toute vérité est absolue. Toute valeur est relative. Et relative à quoi? Au désir. Donc, le désir précède la détermination d'un objet comme étant bon ou mauvais. Donc, chaque fois que vous entendez « tiens, ça c'est bon, ça c'est mauvais », eh ben, y a un désir antécédent, qui peut être un désir collectif. Donc, c'est parce qu'un individu désire d'abord une chose ou un être qui va considérer que c'est une bonne chose, une belle personne, une personne désirable. Mais ce n'est pas parce qu'une personne est belle en soi, désirable en soi, qu'un individu va ensuite la désirer. Il n'y a pas de valeur absolue, il n'y a pas de valeur en soi. Le désir crée les valeurs, il pose les valeurs. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire qu'il faut partir du désir chez Spinoza. Les valeurs n'existent pas avant le désir, de telle sorte qu'elles pourraient orienter le désir, le diriger, tout ça. Donc il n'y a pas de valeur transcendante, c'est-à-dire extérieure au désir. Elles sont intérieures au désir, immanentes. Donc, le désir, en tant qu'il précède les valeurs, donc, peut être une joie. Donc, le désir, du coup, ce n'est pas d'abord un manque, hein, quelque chose qui fait obstacle au bonheur, mais c'est avant tout le désir de posséder, finalement, ce qu'on possède déjà. Le désir de vivre intensément ce qui est actuellement vécu dans la joie et le bonheur. Donc, dans le cadre, par exemple, d'un désir amoureux, si l'être fatalement désiré est associé à une valeur antérieure et extérieure au désir, transcendante, à l'amour idéal avec un grand A, alors nécessairement, l'amant est souffrant. Il éprouve le manque. Parce que cette valeur qu'il croit indépendante de son désir s'impose à lui, à elle, comme une fatalité qu'il n'a pas choisie, comme une fatalité qui lui échappe, toujours plus ou moins. Donc, qui dit valeur extérieure et antérieure au désir dit manque, souffrance, malheur. Oui, c'est pour ça que c'est essentiel de comprendre ça. Que c'est, hein, ce que nous valorisons, ben, c'est nous qui le valorisons. Donc, il n'y a pas de valeur absolue. En revanche, donc, si le désir crée lui-même la valeur, parce que pour Spinoza, il faut comprendre, hein, si par exemple, c'est l'amant qui comprend que son propre désir qui embellit l'être aimé, sans que ce soit un choix, Et ça peut s'expliquer aussi pourquoi il désire tel type de personne, pourquoi on valorise tel type de personne, bon. Par son enfance, voilà. Bon. Donc, qui le rend cette personne digne d'amour. Alors, le désir, déjà, un tant soit peu, c'est une forme de satisfaction, de bonheur, de joie. Quand bien même on ne posséderait pas, entre guillemets, la personne. Parce que l'amant comprend qu'en désirant, il crée une sorte de réalité, la beauté de la désirée. Et que cette réalité, c'est lui qui l'a créée, qu'elle lui appartient en quelque sorte. Donc, c'est sa création. Donc, on ne sort pas de son propre désir pour désirer une valeur qui sera antérieure et extérieure. On reste à l'intérieur de son désir, qui est un désir créateur. Donc, on jouit d'une intensité qui est créée par soi. Donc, de même, le désir d'une vie intense, ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que vous êtes bien vivant et que vous désirez bien actuellement. C'est la création d'un acte d'une vie intense. Avec Spinoza, on peut dire que désirer une vie intense, c'est déjà la posséder d'une certaine manière. Puisque c'est le désir qui crée son objet, qui crée la vie intense, en même temps qu'il se manifeste. Donc, en réalité, quel est l'objet du désir? C'est la joie. Et qu'est-ce que la joie? C'est l'intensification du désir. En fait, le désir, au fond, il vise sa perpétuation, son intensification. Donc, désirer une vie plus intense, c'est déjà la provoquer d'une certaine manière et la ressentir. La joie, en fait, quand vous allez bien, c'est ça. Hein. C'est que vous avez envie de faire plein de choses. Vous voyez? Donc, vous avez un grand désir, comme un désir fort, comme dirait Nietzsche. Vous savez que Nietzsche, il a lu l'emploi d'être terme, c'est un langage beaucoup plus virulent, mais au fond, là-dessus, il est tout à fait spinoziste. C'est-à-dire, le surhomme, tel que l'entend Nietzsche, ce n'est pas du tout une question de biologique, de race, bon, ça, c'est n'importe quoi. C'est d'abord essentiellement psychologique. C'est un désir fort. C'est celui qui aime tellement la vie qu'il en désire l'éternel retour à l'identique. Hein. À l'identique. Pas en changeant ce qui ne nous plaît pas. Hein. Non, c'est la vie telle qu'elle est. Donc, c'est le signe d'un désir immense. Donc, ça montre à quel point les nazis ne l'ont pas compris, évidemment. Bon, donc, au contraire, justement, quel est le signe de la tristesse et de la dépression? C'est qu'on n'a plus envie de rien. Ou alors, on a envie de rester dormir. Hein, donc, on n'a plus d'envie, en fait. Et donc, c'est une forme de tentative d'annihilation du désir qui est, en fait, absolument impossible. Bon. Alors, le renversement subjectiviste des valeurs, ça, c'est contre la théologie et la morale. Spinoza, en fait, il annonce un renversement subjectiviste moderne. C'est le sujet qui crée les valeurs. Donc, les valeurs ne le précèdent plus, c'est lui qui les pose. Donc, ça s'oppose à la théologie, à la morale, conçue classique, hein, courante, qui suppose l'existence d'un bien et d'un mal absolu, transcendant. Donc, ça veut dire que c'est la théologie et la morale qui font de nous des êtres imparfaits, impuissants, en comparaison avec des valeurs qui seraient soi-disant absolues. Qui se caractérise par le manque, le péché, l'imperfection et tout ça. Mais avec Spinoza, cette impuissance et ce manque peuvent disparaître dès lors que nous comprenons que nos désirs, qui sont intrinsèquement liés à notre joie, sont par eux-mêmes les seuls créateurs des valeurs. Donc, pour résumer, Spinoza cherche à nous faire prendre conscience que nous possédons ce qui paraît nous manquer constamment, que nous nous appartenons à nous-mêmes, ce jusqu'en dans le désir, qui de ce fait peut faire notre bonheur, qui ne sera plus un obstacle au bonheur. Donc, nos désirs les plus néfastes, la colère, la vengeance, la cruauté, la peur, ainsi que nos désirs potentiellement excessifs, donc l'avarice, l'ivrognerie, la lubricité, si nous comprenons qu'ils sont en fait nos désirs, qu'ils nous appartiennent en propre, donc qu'ils devraient de ce fait ne plus nous faire souffrir, se transforment en désirs conformes à l'essence du désir, deviennent amour, pardon, bienveillance, quiétude, goût raffiné. Donc c'est peut-être l'illusion selon laquelle certaines valeurs transcendantes s'imposent à nos désirs qui fait que nous désirons mal, que nous désirons dans la souffrance. Si nous dépassons cette illusion, Spinoza appelle ceux qui sont dans cette illusion les ignorants. Mais ignorer, vous voyez bien, ce n'est pas juste ignorer une question scientifique. Au fond, c'est ignorer ça. Voilà, c'est ça que Spinoza appelle les ignorants. Hein. C'est ceux qui n'ont pas compris que les valeurs, nous les créons nous-mêmes. Ceux qui croient qu'il y a des valeurs absolues. Et ceux qui entretiennent ces croyances aussi, notamment les théologiens. Donc, si nous comprenons que notre désir crée les valeurs et possède les valeurs qu'il crée, alors nous supprimerons les désirs néfastes et les désirs immodérés. Je voulais vous parler du début du traité de la réforme de l'entendement, mais bon. Voilà. Alors, Spinoza parle d'une joie, de ce qu'il recherche, une joie continue et suprême pour l'éternité. Alors, on arrive donc à la définition des valeurs à laquelle Spinoza aboutit dans le livre 4. Par bien, j'entends tout genre de joie. Et de plus, tout ce qui contribue, surtout ce qui donne satisfaction au regret, quel qu'il soit. et par mal tout genre de tristesse, et surtout ce qui déçoit le regret. Alors, là, ce qui est étonnant, c'est que l'affect fondamental, c'est le regret, qui ramène l'homme désirant à une situation affective donnée antérieurement au présent. Mais en fait, ça signifie que la joie, c'est pas tant la cible du désir, ça c'est une logique finaliste que Spinoza récuse, mais ça veut dire que la joie, elle est déjà là, déjà éprouvée, et connue, simplement parce qu'elle constitue le désir en sa vérité. En fait, on est en vie, on sait toujours ce que c'est que la joie, de cette manière. On l'a toujours déjà éprouvée. Et la tristesse consiste à l'imaginer à l'inverse comme un objet éloigné dont on serait dépossédé. Donc la tristesse, elle est insupportable pour l'individu puisqu'elle bride l'élan spontané de son conatus, de son désir, et porte en soi la menace d'une destruction totale, raison pour laquelle tout ce à quoi s'efforcera l'homme affecté de tristesse, c'est d'éloigner la tristesse. Et c'est pour ça que celui qui se complaît dedans, en fait, il est en conflit avec lui-même et il s'épuise moralement. Celui qui vit dans le désir de vengeance, dans la haine, il s'épuise, en fait. Il lutte contre, en même temps, son désir de vie. Il ne le satisfait pas, d'une certaine manière. Donc, quand on est triste, on aspire à en sortir, et plus on est triste, plus on aspire à en sortir. Au contraire, dans le cas de la joie, puisqu'elle renforce l'élan du conatus, l'homme affecté de joie, comme dit Spinoza, ne désire rien d'autre que la conserver. Le désir vise toujours à maintenir la disposition qui favorise son épanouissement, de telle manière que cette aspiration est proportionnelle à la joie qui en constitue le prétexte initial. Quand on est joyeux, on tient à demeurer dans cet état, et plus on l'est, plus on tient à le demeurer. C'est pourquoi l'amour suscite le désir. Bon, et quand on aime une chose, on a toujours envie de continuer, d'une certaine manière, à la voir. Afin de maintenir donc l'état affectif de joie qui le définit. Alors que la haine suscite le désir inverse d'éliminer la tristesse qui la constitue. Donc l'âme est essentiellement préoccupée par l'expansion de sa puissance. Et donc elle est naturellement encline à imaginer ce qui va dans le sens d'un accroissement de sa puissance. Ce qui va donc dans le sens de la joie. Et donc elle répugne à évoquer tout ce qui signifierait son impuissance. Et Spinoza l'exprime dans ses trois propositions, 53, 54, 55 de la partie 3, du De Affectibus. La partie 3 qui porte sur les affects. Quand l'esprit se contemple lui-même ainsi que sa puissance d'agir, il est joyeux, et d'autant plus qu'il s'imagine plus distinctement ainsi que sa puissance d'agir. L'esprit s'efforce de n'imaginer que ce qui pose sa puissance d'agir. Quand l'esprit imagine son impuissance, par là même, il est triste. Donc Spinoza montre qu'il n'y a rien, d'abord, qui porte l'âme à se déprécier, et que lorsque cela se produit, elle ne peut que le déplorer. Donc la valorisation des affects, ce qui est bien ou mal, que Spinoza va opérer dans la quatrième partie, ça s'effectue de manière immanente, conformément au processus naturel de la vie affective et du désir. Donc la joie, les passions joyeuses, vont être valorisées parce qu'elles servent la puissance d'être et d'agir de l'individu. Et les passions tristes, elles sont dévalorisées parce qu'elles la desservent. Donc le critère que prend Spinoza, c'est le critère de l'utilité. Mais ce n'est pas un utilitarisme nié, c'est un utilitarisme rationnel et intelligent. Bien et mal n'ont aucune valeur absolue, il a dit. Mais ce n'est pas pour ça que c'est rien du tout. C'est Deleuze qui disait, Spinoza, il remplace le bien et le mal par le bon et le mauvais. Malgré tout, il continue à utiliser les termes de bien et de mal. Donc, ils n'ont aucune valeur absolue, mais une valeur pratique et utilitaire au sens large, c'est-à-dire en rapport, l'utilité, ce n'est pas l'utilité matérielle, c'est ce qui nous est vraiment utile à nous, c'est le projet d'une existence meilleure. Donc, dans le prolongement du moment de la vie et de l'effort pour persévérer dans l'existence. Donc, le partage est fait entre les passions joyeuses utiles et les passions tristes nuisibles. Donc, la vie éthique, c'est ça. Ça consiste à organiser les rencontres, le plus possible les rencontres, afin de sélectionner les premières et d'éviter les secondes. Donc, la joie, elle est bonne parce qu'elle accroît sa puissance d'être et d'agir, et la tristesse est mauvaise parce qu'elle la restreint. Bon, donc voilà, c'est cette règle que Spinoza prend. Donc, la morale de Spinoza, c'est bien une morale de la joie, parce que la joie, elle est bonne pour l'individu, parce qu'elle accroît sa puissance d'être et d'agir. Alors, je vais vous lire, donc je vous l'ai mis là en même temps, un scoli très célèbre de la proposition 45, à forte tonalité épicurienne, où Spinoza décrit d'une certaine manière l'homme sage. Et donc, ça vise à rejeter les idées reçues et donc toutes les superstitions sur ce qu'on imagine être la sagesse. Donc, voilà, proposition, hein, voilà, c'est, vu que Spinoza, il écrit de manière, à la manière d'Euclide, comme il dit, sauf qu'il traite notamment des passions, voilà, éthique, livre 4, proposition 45, scolie. C'est comme dans les éléments d'Euclide, sauf qu'il n'y a aucune figure géométrique, et que ça parle de l'homme, de la nature, de questions philosophiques. Entre la moquerie, donc, dont j'ai dit qu'elle était mauvaise dans le corollaire 1, et le rire, je reconnais une grande différence. Car le rire, comme le jeu, est une joie pure. Par conséquent, il ne peut avoir d'excès, et de soi, il est bon. Pour ça, il y a une formule très célèbre de Spinoza qu'on répète à satiété. Spinoza écrit ça dans sa correspondance aussi dans le traité politique. Il écrit « ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester et comprendre ». Alors, quand je donne ça à mes élèves, là aussi, en début d'année, ils se disent qu'ils ne vont pas beaucoup rigoler pendant l'année. Et en même temps, justement, c'est pour ça qu'il faut préciser quel genre de rire. Spinoza est un philosophe de la joie, donc il aime rire. Mais par contre, il y a un mauvais rire, la moquerie, hein, où il y a une forme de tristesse et de haine, que celui-là, il va falloir rejeter. Bon. Alors, il n'y a certainement qu'une torve et triste superstition pour interdire qu'on prenne du plaisir. Car en quoi est-il plus convenable d'éteindre la faim et la soif que de chasser la mélancolie ? Donc ça veut dire que c'est aussi important. Éteindre la faim. Hein, donc, en gros, les nourritures terrestres, ne vous inquiétez pas, on va y arriver dans pas longtemps. Les nourritures terrestres sont aussi importantes que les nourritures spirituelles. Et le terme de nourriture spirituelle n'est pas une métaphore. C'est vraiment indispensable. Et l'âme et le corps, c'est une seule et même chose. La joie est indispensable à notre santé. Elle est vitale. Donc, il faut chasser la mélancolie. Et un sage n'est pas mélancolique. Mélancolie, pour Spinoza, c'est une tristesse de l'individu en entier. Voici ma règle et à quoi je me suis résolu. Il n'y a ni Dieu ni personne à moins d'un envieux. Donc, hein, pour prendre plaisir à mon impuissance. Donc Dieu, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas une personne, pense Spinoza. Mais si une personne prend plaisir à mon impuissance, c'est un envieux. Mais il y a personne qui nous veut vraiment du bien, qui peut prendre plaisir à mon impuissance, donc à ma tristesse et qui veut chercher à la provoquer et à ma peine. Et pour nous tenir pour vertu. Vertu, ça veut dire puissance pour Spinoza, oui, selon l'étymologie, vice, vieillesse, la force. Donc, qui tiendrait pour vertu les larmes, les sanglots, la crainte et les autres choses de ce genre, donc les passions tristes, qui marquent une âme impuissante. Au contraire, plus nous avons de joie, plus nous acquérons de perfection. En d'autres termes, plus nous participons nécessairement à la nature divine, c'est-à-dire à la nature tout court et à notre nature tout court. Il est donc d'un homme sage d'user des choses de la vie et d'en jouir autant que possible, pourvu que cela n'aille pas jusqu'au dégoût, car alors ce n'est plus jouir. Oui, il est d'un homme sage de se réparer par une nourriture modérée et agréable, de charmer ses sens du parfum. Donc c'est bon, il nous autorise à mettre du parfum. Et de l'éclat verdoyant des plantes, d'orner même son vêtement, de jouir de la musique, des jeux, des spectacles, et de tous les divertissements que chacun peut se donner sans dommage pour personne. En effet, le corps humain se compose de plusieurs parties de différentes natures, qui ont continuellement besoin d'aliments nouveaux et variés, afin que le corps tout entier soit plus propre à toutes les fonctions qui résultent de sa nature, et par suite, afin que l'âme soit plus propre à son tour aux fonctions de la pensée. Donc il est aussi vital de rechercher la joie que de satisfaire les besoins biologiques fondamentaux. La joie est aussi importante pour l'homme que les besoins du corps, c'est une nourriture spirituelle. La joie est vitale, indispensable à la santé de l'être humain. Un homme ne peut vivre sans elle très longtemps, pas plus qu'il ne le pourrait s'il ne donnait à son corps les aliments hein, dont il a absolument besoin. Sans joie, la vie s'étiole, devient morbide, suicidaire et mortifère. C'est au moins aussi utile et conforme à la nature qu'à la raison. Donc Spinoza procède ainsi à une réhabilitation du rire, du jeu et de tout ce qui conduit à se délecter pour arriver à une joie pure. Il faut donc bien comprendre et se répéter. Tant les préjugés sont tenaces sur cette question que la tristesse n'est jamais ni belle, ni noble, ni utile. Alors ça, cette idée-là, vous la trouvez aussi notamment dans les propos sur le bonheur d'Alain. Je ne sais pas là encore si on aura le temps d'en parler, mais je vous ai photocopié donc un texte extrait des propos sur le bonheur d'Alain, un texte qui porte sur la pitié. Je vous conseille les propos sur le bonheur d'Alain, qui est le texte par lequel moi je suis entré en philosophie. Ça m'a toujours impressionné par ce mélange à la fois de simplicité, de profondeur, et sur la manière dont on arrive à dire simplement des choses essentielles. Et Alain est très fort pour ça, sauf que Alain est un philosophe cartésien. La plupart du temps. Il a écrit un très beau livre sur Spinoza, mais sinon c'est un philosophe cartésien, donc un philosophe du libre-arbitre. Là, on est très éloigné de Spinoza. Mais par contre, c'est un excellent pédagogue. Et dans le texte que je vous ai donné, qui s'appelle La pitié, Alain, donc les propos sur le bonheur, ça, c'est un texte tout à fait spinoziste. Il dévalorise la pitié, comme Spinoza, parce qu'il y a une part de tristesse dedans. Mais Spinoza nous dit, il ne faut surtout pas, ce n'est pas une raison pour être insensible. À la limite, il vaut mieux un homme qui fait preuve de compassion et de pitié plutôt que quelqu'un d'absolument insensible et cruel, bien sûr. Mais malgré tout, hein, ce qu'il faut privilégier à la pitié, c'est la joie. Donc, bon, si on a le temps, on le lira, sinon, c'est pas grave. Donc, la tristesse n'est jamais ni belle, ni noble, ni utile. Ça, vous trouvez ça aussi hein, dans les propos sur le bonheur. Elle ne peut pas être légitimée du point de vue de la raison, elle n'est jamais justifiable. Et même s'il est difficile de ne pas l'éprouver par moment, et même souvent, hein, le sage, c'est pas celui qui n'éprouve pas de tristesse non plus. C'est quand même un être humain. Donc il peut être marqué effectivement par des événements, bien sûr, qui lui arrivent. Mais par contre, c'est celui qui ne la valorise pas, qui évite de s'y complaire. Donc le penchant à l'austérité, hein, compris au sens moral du terme, c'est une passion triste inspirée par des croyances absurdes. On se complaît dans la tristesse en conférant une valeur illusoire à une impuissance. Donc c'est une ânerie, pour Spinoza, c'est une bêtise. Donc par conséquent, il est inutile de se priver des bonnes choses et de tout ce qui fait la douceur de la vie. Nourriture, boissons délicieuses, divertissements, les exercices physiques, le sport, les spectacles, les fêtes, musique harmonieuse, les parfums, voilà, pour accéder à l'idéal d'une bonne vie. Vous me laissez encore un peu de temps, oui, ça va? Oui? 20 minutes, ça va? Bon. Bon, vous me dites, hein, sinon si vous avez trop faim, vous voyez, Spinoza dit que c'est aussi important. Hein, bon. Et donc, est-ce que ça signifie que la joie ne peut être que bonne, de façon unilatérale? Malgré tout, Spinoza ne dit pas ça non plus. Il ne se contente pas d'un schéma aussi grossier, manichéen et simpliste. Il met en évidence le fait que l'amour et le désir peuvent être excessifs. Bon, ça c'est partie 4, proposition 44. L'amour et le désir peuvent être excessifs. Donc la joie qui nous procure, devenant dès lors capable de nous conduire à notre perte, plus sûrement que beaucoup de tristesse. Ce serait trop facile, sinon. Hein, si les hommes, malgré tout, vivent mal, c'est à cause de ce qu'ils aiment. Bon, souvent. Donc ça, c'est ce que montre là encore le prologue, fameux, voilà, que je vous ai donné la photocopie, hein, du traité de la réforme de l'entendement. Et ce qu'on lit là, hein, c'est-à-dire les trois désirs qui animent couramment les hommes, l'ambition, donc le désir de pouvoir excessif, la lubricité, désir de charnel, hein, l'obsession voilà, sexuelle, l'avarice, donc l'amour excessif de l'argent, que Spinoza qualifie de délire, parce qu'ils sont excessifs. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout ça, et qu'il faut justement chercher l'austérité. Mais Spinoza, hein, il dit, si vous les transformez en moyens, il n'y a pas de souci, si vous comprenez que... Le problème, c'est de croire que la vie parfaite, une joie éternelle, comme il dit, parfaite, absolue, voilà. Donc un accroissement de notre vie se situe absolument là-dedans. Donc si la joie était toujours bonne, la sagesse ne serait pas si difficile et rare, et l'éthique finit sur cette formule. Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Bon, malgré tout, vivre bien, c'est un peu compliqué. Donc il n'y a pas besoin d'écrire un livre qui s'appelle L'éthique, et un livre aussi complexe d'ailleurs, hein, si la joie était suffisante, n'importe quel type de joie. Donc il peut y avoir des passions joyeuses qui nous desservent. Et ce qui ruine les existences ordinaires, c'est moins souvent les chagrins que les amours et les joies inintelligentes. C'est ça que ça veut dire, hein, vous souvenez la passion. C'est la confusion, c'est l'incompréhension au fond. Donc les amours, les joies inintelligentes. Hein. Donc Spinoza critique ce qu'il appelle le chatouillement. Alors lui, hein, il écrit chatouillement, la traduction est un peu, voilà, un peu étrange. En latin, c'est titillatio, c'est-à-dire en fait, c'est un plaisir physique partiel. Bon, ce qu'on voit clairement dans la sexualité. Parce que justement, il est partiel, et la joie, au contraire, où il parle aussi d'allégresse, ça concerne la totalité de notre être. Et donc, c'est en ce sens-là qu'elle est véritablement utile. Mais parfois, on cherche uniquement des joies partielles qui nous desservent totalement. Voilà, mais qui desservent la totalité de notre être. Donc c'est pour ça que la morale de la joie de Spinoza n'est pas une morale du plaisir comme la morale d'Épicure. Parce que le plaisir peut entraîner un certain déséquilibre et se faire au détriment de l'ensemble. Et la douleur ou la tristesse, qui sont mauvaises en elles-mêmes, elles peuvent être bonnes indirectement si elles permettent de combattre ces plaisirs. Donc l'amour et le désir sont excessifs. En fait, la passion aussi pour Spinoza, finalement, c'est l'obsession. Voilà, c'est l'image de l'avare chez Molière, quoi. C'est-à-dire le fait que l'argent passe avant tout le reste et on y pense du matin au soir. Bon, c'est sur le modèle du délire obsessionnel, finalement, c'est comme ça. Quoi. Évidemment. Et d'abord, ça commence par un amour et une joie. Ça commence toujours comme ça. Donc, ils sont excessifs dès qu'ils se fixent sur un objet particulier, les corps, la richesse, les honneurs, hein, qui sont les objets que recherchent les hommes, hein, la plupart du temps, et d'abord, spontanément. Et ça nous fait oublier ce qui importe à la totalité de notre être, et ce qui lui est donc vraiment utile. Donc l'excès, ça signifie que le désir se transforme en une fixation abusive sur un type d'objet. C'est une envie exclusive qui fait de ceux qui en sont la proie, donc on est la proie des passions pour Spinoza, hein, c'est ce qu'il appelle au fond la servitude. D'ailleurs, on n'en est pas maître, on en est, voilà, on y est soumis, hein, c'est la proie, la passion au sens, on est passif, on ne se maîtrise pas, et c'est une passion, donc très rapidement, pathos, ça va nous faire souffrir. Donc une envie exclusive qui fait de ceux qui en sont la proie des êtres hallucinés, et en quelque sorte aveugles à toute autre chose que ces objets, donc à eux-mêmes, aux autres, au monde. Donc le critère de la joie permet à l'homme, à l'être raisonnable, d'exercer un tri entre ses affects, en appliquant strictement cette règle, le signe du bien et de l'utile, c'est l'accroissement existentiel de l'âme et du corps en entier, tandis que le signe du nuisible, c'est la tristesse. Ainsi, l'homme qui vit sous la conduite de la raison s'efforce de compenser par l'amour ou la générosité, hein, comme dit Spinoza, la haine ou le mépris que d'autres peuvent avoir pour lui. Il bannit autant que possible la crainte et l'espoir, qui vont toujours ensemble pour Spinoza. Donc c'est ni quelqu'un qui espère, ni quelqu'un qui craint. Dans tout espoir, il y a une forme de crainte. Dans toute crainte, une forme d'espoir. On craint une chose et on espère qu'elle ne va pas se passer. Et quand on espère, on craint que la chose ne se passe pas. Bon. Donc la joie, c'est pas pareil. Parce que donc s'il est banni, c'est que ça va pas sans une certaine tristesse. Il bannit également la pitié, contrairement là encore à une image courante et fausse de la moralité, inspirée, comme dirait Nietzsche, du judéo-christianisme, et qui est véhiculée par les moralistes ainsi que par les théologiens. Donc Spinoza, il résume sa morale en une formule, celle-là, « Bene agere et laetari », il la répète plusieurs fois dans l'éthique, « Bien agir, laetari, se maintenir en joie ». Donc Laetitia, c'est la joie. Donc ce principe pousse Spinoza à bannir également l'indignation, l'humilité, ainsi que le repentir, le remords, alors que, vous voyez, ce sont des sentiments qui sont couramment valorisés. Mais pour lui, ce sont des formes d'impuissance et pas de vertu, puisque la vertu est une puissance, une affirmation de soi. Donc il critique tout autant la surestime que la mésestime et l'orgueil. Donc l'orgueil, ça consiste à se surestimer, supposer qu'on fasse plus de cas de soi et dans le cas de la surestime ou de la mésestime ou d'autrui, plus ou moins de cas, qu'il est juste. Donc l'homme raisonnable est libre, il essaie bien plutôt de parvenir au contentement de soi, hein, acquiescenta in se ipso, au contentement de soi. C'est ça qui caractérise l'homme libre. Il est joyeux. Mais à juste titre. Pas pour des raisons imaginaires. Hein. Donc c'est une joie qui provient du fait qu'il considère sa propre puissance d'agir, c'est-à-dire son essence. Et donc il arrête de procéder par comparaison avec d'autres ou par rapport à un idéal. Puisque chaque individu est absolument singulier. Et donc chaque individu a son essence propre et donc sa perfection propre. Et voilà. Et donc, c'est ça ce qu'il y a de positif en chaque individu. C'est ce qu'il est. Chaque chose est nécessairement elle-même. Une formule de Spinoza, deuxième partie, hein, par réalité, par perfection, j'entends la même chose. Au sens où la réalité, elle est parfaitement ce qu'elle est. Elle est absolument et totalement ce qu'elle est. Et chaque être, il est absolument et totalement ce qu'il est. Si vous y voyez un manque, c'est toujours par comparaison avec autre chose que ce qu'il est. Bon. Et c'est pareil pour vous. Si vous voyez du manque, c'est par rapport à autre chose que vous. Donc on n'est jamais trop allègre du point de vue moral. Alors que la mélancolie, inversement, pour Spinoza, elle est toujours excessive et nuisible. Donc la mélancolie, c'est un sentiment de malaise diffus qui mine la constitution globale de l'individu. Donc on a toujours raison de chercher à s'en préserver. L'allégresse, au contraire, c'est un sentiment positif d'épanouissement. Donc l'essentiel, ça reste d'atteindre ce sentiment de bien-être généralisé. L'effort pour accroître l'allégresse et la joie, il est toujours légitime en soi et chez les autres. Alors, il me reste un petit quart d'heure. Je vais essayer de vous parler quand même rapidement aussi de Bergson, le deuxième grand philosophe de la joie. Je vous ai donc donné un texte qu'on peut essayer de lire rapidement. Donc c'est extrait de ça, une conférence de Bergson de 1911 qui s'appelle « La conscience et la vie ». Donc Bergson, hein, vous voyez, philosophe français, fin du 19e, début du 20e. Il a vécu autant au 19e siècle qu'au 20e siècle, 1859-1941. Et là, 1911, donc, son ouvrage majeur le plus célèbre, qui s'appelle « L'évolution créatrice », est paru en 1907, pour lequel il a eu aussi le prix Nobel de littérature. Et c'est une conférence, donc je vous conseille hein, ça, parce qu'à l'image de ce que je vous ai photocopié, c'est très accessible. Bergson était un merveilleux professeur, un professeur génial, comme Alain, et c'est une traduction aussi souvent française. Voilà. Et donc, il savait faire de la très bonne vulgarisation. Je parle des philosophes classiques français. Hein. Bon. Alors, la formule de Bergson, c'est « Partout où il y a joie, il y a création ». Est-ce qu'on a le temps de lire le texte Oui, bon, d'accord. Alors, les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie, ça va, vous l'avez ? Oui ? C'est bon ? Donc, les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme. Alors, ça, c'est les questions philosophiques. Classique enfin, et courante d'une certaine manière. Alors on s'imagine que d'abord la philosophie c'est ça. C'est ces questions-là. D'où on vient, où on va, bon. Et donc pourquoi on est là. Bon. Après quand on fait de la philosophie, on se rend compte que y a, finalement les philosophes se posent plein d'autres questions qui sont très étranges. Et ils oublient ces questions fondamentales. C'est Bergson lui-même qui le dit au tout début de la conférence. Quoi. Alors si, voilà, si certains n'ont pas le texte, non, il y en a en rap peut-être. Voilà. Merci. Donc les philosophes qui ont spéculé sur la signification de la vie et sur la destinée de l'homme n'ont pas assez remarqué que la nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même. Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe est la joie. Vous voyez, la joie, c'est un sens métaphysique pour Bergson. Ça nous apprend quelque chose sur notre destination, sur le sens de la vie. Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir. Le plaisir n'est qu'un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. Il n'indique pas la direction où la vie est lancée. Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, si nous tenons compte de cette indication et si nous suivons cette nouvelle ligne de fait, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Et Bergson, depuis l'évolution créatrice, on sait qu'il définit la vie, donc la nature, le réel, finalement, comme une évolution créatrice. Donc, plus riche est la création, plus profonde est la joie. Au fond, on éprouve ce sentiment quand on crée quelque chose. Et c'est ça qu'on recherche dans la joie, à travers la joie, c'est la création. La mer, regardez les exemples qu'il prend, qui sont des exemples très triviaux. Très courant. La mère qui regarde son enfant est joyeuse parce qu'elle a conscience de l'avoir créé physiquement et moralement. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne et de la notoriété qu'il acquiert ? Oui, ça, c'est les justifications courantes. Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu'il ressent, mais lui apportent des plaisirs plutôt que de la joie. Il revient à la distinction qu'il a faite auparavant. Donc, ce n'est pas d'abord pour ça qu'il fait ça. Et ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie, c'est-à-dire d'avoir créé quelque chose de viable. Prenez des joies exceptionnelles, celles de l'artiste qui a réalisé sa pensée, celles du savant qui a découvert ou inventé. Vous entendrez dire que ces hommes travaillent pour la gloire et qu'ils tirent leur joie les plus vives de l'admiration qu'ils inspirent ? Erreur profonde. On tient à l'éloge et aux honneurs dans l'exacte mesure où on n'est pas sûr d'avoir réussi. En fait, vous voyez, c'est par défaut, quoi. C'est par insatisfaction. Du coup, on se raccroche à la vie des autres, mais par désespoir. Si on était vraiment satisfait de ce qu'on a créé et sûr d'avoir créé quelque chose, ça serait suffisant, quoi. Il y a de la modestie au fond de la vanité. C'est pour se rassurer qu'on cherche l'approbation. Et c'est pour soutenir la vitalité peut-être insuffisante de son œuvre qu'on voudrait l'entourer de la chaude admiration des hommes. comme on met dans du coton l'enfant né avant terme. Bon, Bergson, c'est un grand styliste aussi. Mais celui qui est sûr, absolument sûr, d'avoir produit une œuvre viable et durable, celui-là n'a plus que faire de l'éloge et se sent au-dessus de la gloire, parce qu'il est créateur, parce qu'il le sait, et parce que la joie qu'il en éprouve est une joie divine. Si donc, dans tous les domaines, le triomphe de la vie est la création, ne devons-nous pas supposer que la vie humaine a sa raison d'être dans une création qui peut, à la différence de celle de l'artiste et du savant, se poursuivre à tout moment chez tous les hommes, la création de soi par soi, l'agrandissement de la personnalité par un effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose de rien, et ajoute sans cesse à ce qu'il y avait de richesse dans le monde. Une force qui est capable de créer plus que ce qu'elle avait au départ, ça, Bergson appelle ça l'esprit. C'est le contraire de la matière. Dans la matière, vous ne pourrez pas en tirer plus qu'il n'y a au départ. L'esprit est une force capable de créer. C'est une faculté créatrice. Et donc, qui rejoint la réalité, parce que la réalité, elle est créatrice pour Bergson. Chaque moment suivant du temps, ce qu'il appelle la durée, apporte quelque chose de plus à ce qui précède. Donc, en créant, on comprend quelque chose de la vie elle-même. Donc, la joie, c'est le signe indubitable auquel se reconnaît quelque chose de l'essence de la vie, la création. Donc les philosophes, avant lui, ils n'ont pas pris en compte cette marque précise par laquelle la nature nous indique la signification de la vie et la destinée de l'homme. Donc les questions vitales auxquelles la philosophie doit tenter d'apporter une réponse, au lieu de ratiociner, de s'empêtrer dans les faux problèmes. Bon, donc en ce sens, hein, ce paragraphe répond à ce qu'il dit au début, sur les questions vitales, légitimes, hein, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, et contre tous les faux problèmes créés par la métaphysique, hein, justement, et contre l'idée d'angoisse métaphysique. Si j'ai écrit ce livre, d'abord si j'ai fait cette thèse, c'est au fond pour combattre notamment un cliché et une expression que je trouve insupportable, c'est celle d'angoisse métaphysique. Angoisse métaphysique, c'est une contradiction dans les termes. Voilà. Et notamment, vous avez là deux immenses métaphysiciens qu'on vient de voir, Spinoza et Bergson, hein, et ils vous disent que l'angoisse, c'est le contraire de la capacité à réfléchir sur des questions métaphysiques. C'est-à-dire que dans l'angoisse, au fond, vous vous refermez sur vous-même, vous n'êtes pas apte à comprendre quoi que ce soit, et finalement à être intelligent. L'angoisse, ça nous abrutit, ça nous enferme sur nous, quoi. Donc ça rétrécit notre monde. Donc c'est du point de vue courant qu'on parle d'angoisse métaphysique, mais pour Spinoza comme pour Bergson, la métaphysique bien comprise, ça va avec la joie. Donc, la joie se distingue du plaisir qui vise seulement à satisfaire l'instinct de conservation et n'indique aucune direction. La recherche du plaisir, ça ne peut pas être une fin en soi, parce que ça marque un arrêt. Ça n'a pas d'autre finalité que la survie au fond de l'espèce. Le vivant recherche le plaisir. Bon, mais l'homme, lui, là, il doit rechercher la joie. La joie, parce que c'est un être qui exprime au mieux, finalement, ce que Bergson appelle l'élan vital, le grand principe à l'origine de la vie, qui se poursuit dans l'homme. C'est ce qu'il dira dans l'évolution créatrice. Et dans les deux sources, c'est une grande œuvre de philosophie morale et politique qui est écrite en 1932, là, il va dire que ça se poursuit à travers quelques grands hommes de bien, mais c'est une idée qu'il esquisse déjà ici. C'est pour ça qu'après, il va dire que le point de vue du moraliste, il est supérieur. Et il parle des grands hommes de bien qui expriment encore mieux cet élan vital. Donc la joie, c'est une indication, un critère infaillible pour juger que la vie a remporté un succès certain. Puisque la vie se caractérise essentiellement par son évolution créatrice, partout il y a joie, il y a création. Donc vous voyez que Bergson ne limite pas ses exemples au domaine moral, il ne concède même pas d'abord la morale en premier lieu, ça touche à tous les aspects de l'existence, la mère qui regarde son enfant, le commerçant, l'entrepreneur qui voit leur activité prospérer, l'artiste dont l'œuvre matérialise l'intention, le savant à l'origine d'une découverte, d'une invention, bon. La motivation profonde de ses activités, serait incompréhensible si on les réduisait à une recherche de gloire, d'approbation, de richesse, tous ces critères externes, hein, et qui sont insuffisants. Bergson donc confère à la joie le statut de souverain bien, ça veut dire suprême, donc que recherchaient les philosophes de l'Antiquité, notamment Aristote. Et Aristote, il écrit un ouvrage là-dessus qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque, et dans le livre 1, chapitre 5, il caractérise le souverain bien par trois critères. Complétude. Donc, hein, c'est complet, c'est autosuffisant, complétude, autosuffisance, et le fait d'être suprêmement désirable. Donc, Aristote dira, c'est la cause finale, le souverain bien, de toutes les actions humaines. Alors, lui va appeler ça le bonheur. Mais le bonheur, voilà, c'est le souverain bien, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas le faire en vue d'autre chose. Tout ce que vous faites, finalement, c'est en vue de ça. Bon. Et donc, c'est ça le souverain bien, c'est ça qui est suprêmement désirable. C'est plus relatif à rien d'autre. Bon. Voilà, c'est ce que Bergson dit là pour la joie. C'est la cause ultime de nos actes, finalement, dont toutes les autres causes dépendent, et elle-même n'est relative à rien d'autre. Ça veut dire que personne ne recherche absolument la richesse. Personne ne recherche absolument la gloire. Ou alors, c'est un manque de vitalité. C'est le signe d'un échec, d'une déception, finalement. D'une sorte de frustration. Donc, c'est pour se rassurer, quand on recherche l'approbation, bon, on a lu le texte. Donc, Bergson parle de la création comme de la raison d'être de l'existence humaine. Pas parce qu'elle aurait été décidée a priori par une puissance supérieure, mais parce que c'est le but ultime de l'activité humaine. La joie de créer n'est pas recherchée pour autre chose qu'elle-même, alors que les honneurs et les richesses ne sont que des buts relatifs et accidentels. Donc, ils sont incapables de donner une satisfaction pleine et entière, alors que la joie procure un sentiment de plénitude et d'autarcie, indiquant que la vie est parvenue à atteindre son objectif. Donc, tous les hommes recherchent ce sentiment de joie profonde qui exprime, en dernière analyse, une création plus importante, c'est-à-dire la création de soi par soi, c'est ça qu'on recherche au fond. La création de soi par soi, c'est la liberté. Et à la différence de celle de l'artiste ou du scientifique, elle peut se développer chez tous les hommes. Et donc, personne n'appelle ça une joie divine. Bien, mais je vous remercie. Je crois que je suis dans les temps.
Merci beaucoup, Lionel. On va prendre une pause. D'abord, merci d'avoir, finalement, peu de temps, nous avoir introduit à la pensée de Spinoza essentiellement et un peu celle de Bergson. Bon, je suis conscient que c'était peut-être pas toujours facile à tout suivre, hein, même si tu étais très clair, parce que c'est quand même pour des non-philosophes, en tout cas de profession, assez dense. Cela dit, enfin, j'imagine que c'est pour vous comme pour moi, il y avait des fulgurances, en tout cas, en ce qui me concerne, qui nous permettaient d'entrevoir, alors je vais peut-être dire des gros mots, mais en quoi, à mon avis, la philosophie ou ce qu'il y a derrière les entreprises libérées ou les concepts de Laloux sont, à mon avis, fondamentalement spinozistes, peut-être même sans le savoir. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des liens très très forts là derrière. Et c'est ce que...
Excuse-moi, oui. J'ai aussi fait une conclusion où j'essaie de rapprocher ça.
Ah oui.
Mais je ne sais pas si vous ne voulez pas d'abord passer aux nourritures terrestres.
Oui, on va passer aux nourritures terrestres. Et effectivement, après, alors, on va passer à ce lien. Et peut-être que j'ai dit une grosse bêtise en disant ça.
Non, non.
Mais voilà, ça c'est... Enfin, et de ce point de vue-là, vraiment, merci Lionel de nous aider à comprendre un peu Spinoza. Et nous donner probablement l'envie de le lire et en t'accompagnant probablement au travers de ton livre. Je voudrais juste justement encore vous dire par rapport à ce petit livre dans lequel j'ai fait une contribution, j'essaye en fait d'y décrire ce qu'est, je vais dire, la philosophie de leadership et des organisations qu'il y a derrière Laloux et Goetz. Et à nouveau, peut-être, et on pourra en parler, parce que je pense que tu l'as lu, le petit article, on pourra essayer de voir s'il y a des liens à faire avec Spinoza et Bergson, et dans quelle mesure. Voilà. Merci beaucoup, merci Lionel.
Merci
on passe aux nourritures terrestres, comme tu dis, et puis on en discute. À tout de suite.